Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à l'affaire Sacco et Vanzetti et à l'anarchisme italo-états-unien à l'occasion du 90e anniversaire, triste anniversaire, de l'exécution de Sacco et Vanzetti, qui sont donc deux anarcho-syndicalistes italiens aux États-Unis, immigrés, qui ont été tués donc. En août 1927. Alors pour parler de cette affaire Sacco Vanzetti et de ce qui la précède, c'est-à-dire le milieu remuant de l'anarchisme italo-états-unien, nous sommes avec Ronald Creag, professeur de civilisation américaine à l'université de Montpellier, auteur sur ce sujet de Sacco et Vanzetti aux éditions La Découverte, qui est un très bon ouvrage qui aborde une partie de ce qu'on va dire aujourd'hui, qui est beaucoup plus dense, qui revient très précisément sur l'affaire, qui revient précisément sur la vie de Sacco et Vanzetti. On parlera pas trop de ces deux aspects, donc on va dire des événements qui ont conduit à l'affaire, des histoires de braquage et tout ça. Et on parlera pas trop non plus de la vie de Sacco et Vanzetti, ou seulement pour illustrer le phénomène de l'immigration italienne et qui va créer le milieu anarchiste dont on va parler à l'instant. Le livre est très très intéressant, très bien écrit, donc on invite les gens qui veulent en savoir plus après cette émission à s'y reporter. Donc il est également auteur de nombreux ouvrages sur l'anarchisme aux États-Unis, dont qu'on mettra donc en référence sur le site sortirducapitalisme.fr. Donc bonjour Ronald.
Bonjour, bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs.
Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette immigration italienne qui arrive à partir des années 1880 massivement aux États-Unis et qui va créer ce milieu incroyable politiquement de l'anarchisme italo-états-unien et qui va produire Sacco et Vanzetti, mais qui va aussi produire celui qui va assassiner le roi d'Italie. Donc c'est vraiment un milieu vraiment incroyable.
Oui, et bien, si tu veux, on va commencer par l'histoire de Rosina Zampelli, une petite fille de 11 ans qui est amenée en bateau d'Italie juste pour retrouver ses parents qui l'ont laissée depuis qu'elle était bébé chez des bonnes sœurs en Italie, et qui va donc arriver dans l'état du Massachusetts, dans un petit quartier italien, à sa grande surprise, où elle ne va pas être trop étonnée parce qu'il n'y a que des Italiens tout autour d'elle. Toute la communauté là est italienne, et pas seulement elle est italienne, mais elle est toute de la même région qu'elle. Elle a 11 ans à peine, sa mère est couturière, donc elle va tout de suite être en contact aussi avec beaucoup de gens, parce qu'en général les filles n'ont pas tellement de contacts. Et puis ce qui va se passer, c'est qu'à 16-17 ans, elle va découvrir au bal son amoureux avec qui elle va se marier, et qui s'appelle Sacco. Ils vont se marier malgré l'opposition du père, parce que Sacco est un anarchiste, plus ou moins. En tout cas, il a des idées vraiment anticléricales, il est athée. ça le choque beaucoup, mais bon, elle y tient, et puis voilà, ils vont se marier. Et là, elle va quand même découvrir tout d'un coup beaucoup de choses. D'abord, elle va s'apercevoir que tout le monde ouvrier aux États-Unis, pratiquement, eh ben, ce sont des immigrants. Depuis 30 ans déjà, où elle était avant elle, depuis les années, depuis pratiquement même la guerre de sécession, depuis 1870, il y a eu d'abord une grande immigration allemande, puis il y a eu des immigrations d'Irlandais, d'Europe centrale, et là, quand elle est arrivée, il commençait à y avoir aussi des immigrations, justement, des pays de l'Est, de l'Europe. Ils ont leur propre syndicat, dans leur langue, c'est-à-dire que si tu es juif, tu seras recruté dans un syndicat juif, si tu es allemand, tu seras indiqué dans un syndicat allemand, et ainsi de suite. Donc il y a une grande solidarité sur un plan national, et aussi sur un plan idéologique, plus ou moins. Alors avec Sacco, ils vont quand même commencer à recevoir des journaux, et il va se créer un club socialiste d'abord, et puis ensuite un club anarchiste où Sacco va être actif parce qu'il sent qu'il est avec des copains qui sont plus ou moins des voisins d'ailleurs, avec qui il se sent beaucoup plus à l'aise. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire du théâtre. Ils vont faire du théâtre pour ramasser de l'argent, pour pouvoir aider les grévistes et autres choses comme ça. Et il va justement se trouver que à ce moment-là, bon, Sacco est encore très jeune. Quand il est arrivé aux États-Unis, il avait eu aussi 17 ans seulement. Et il est travaillé comme fraiseur dans la chaussure. Ils vont avoir bientôt un premier bébé. Quand ils sortent ensemble, c'est lui qui porte le bébé dans ses bras, ce qui est très rare à l'époque où les Italiens sont encore assez machos. Et puis, il va y avoir à ce moment-là des grèves. Il y a d'abord une première grève à Lawrence, dans le Massachusetts. Et à l'occasion de cette grève, Sacco va s'engager pour envoyer de l'argent, pour participer aussi à la grève. Et ensuite, il va donc rencontrer, comme ça, avec des camarades italiens. Il a créé donc ce cercle d'études sociales, qui est un groupe anarchiste, dans lequel il va découvrir un milieu nouveau pour lui, des individus qui s'appellent Carlo Tresca, qui est une grande figure dans le mouvement ouvrier, parce que c'est un tribun remarquable. Il faut dire qu'à l'époque, où il n'y avait pas des haut-parleurs et où il n'y avait pas de salles parce qu'elles étaient toujours fermées pour les anarchistes, et pour le monde ouvrier d'ailleurs en général, il fallait parler en plein air. Donc il fallait des gens qui aient une voix très forte, des tribuns, et l'anarchiste a disposé de gens, de tribuns de très très grande qualité. Il y avait l'anarchiste allemand Jean Most, dont un des disciples disait qu'il nous aurait dit d'aller nous jeter tous ensemble dans le fleuve, on l'aurait fait. Il allait y avoir Emma Goldman, un peu à la même époque aussi. C'est en 1912 qu'il y a la grève de Massachusetts. C'est une ville qui compte en majorité un personnel féminin. Et c'est une entreprise, c'est le patronat du textile qui est là. Les conditions de travail, il faut savoir pourquoi on se met en grève, parce qu'on dit toujours une grève, mais on ne dit pas pourquoi. Les machines vibraient si fort qu'il fallait les mettre au rez-de-chaussée de l'usine. Elles étaient tellement bruyantes et la salle en contenait des centaines. Le rythme du travail fut doublé avec les machines, chaque personne devant manipuler deux machines à la fois. Les opérations étaient répétitives, les manœuvres dangereuses. On en venait presque à regretter le temps où les ouvrières des anciennes machines travaillaient 16 métiers à la fois. En moyenne, celles qui réussissaient à conserver leur emploi gagnaient 16 cents de l'heure. Les conditions de logement étaient épouvantables. Beaucoup de familles partageaient le même appartement dans des bâtiments insalubres où les maladies contagieuses proliféraient. La mortalité infantile était énorme parce que les femmes partaient au travail avec leurs maris pour gagner un peu plus et les bébés mouraient de faim. En 1912, une loi du Massachusetts décida de réduire la semaine à 54 heures. Dans une des filatures à Lawrence, les ouvriers découvrirent qu'on allait supprimer le salaire des 2 heures qu'il y avait en plus. Et donc une grève éclata. La police, évidemment, tout de suite interdit les manifestations, multiplia les amendes et les arrestations. Et c'est dans ce cas-là que la grève arriva. avec un journal en particulier qui était lancé par les anarchistes italiens en langue italienne et qui s'appelait Il Proletario. Donc il participa à la collecte d'argent au profit des grévistes, qui évidemment ne touchaient plus rien. Il fallait payer aussi les avocats de ceux qui avaient été arrêtés. Et peut-être à l'occasion de cette grève, il a rencontré peut-être un certain Bartolomeo Vanzetti. Sans aucun doute, il était en train de se radicaliser. Il faut dire qu'il y a ensuite une grève également dans la ville de Milford où lui-même se trouvait, et que donc là aussi, il a participé, bien entendu, et il a commencé à se faire remarquer. Il faut voir que dans le New Jersey, qui n'est pas très loin de l'État de Massachusetts, il y avait aussi une importante communauté italo-américaine d'environ 5000 membres, parce qu'il y avait eu quand même par centaines de mille, de milliers chaque année, des Italiens qui partaient pour les États-Unis, Italiens du Nord, Italiens du Sud. Sacco était du Sud, il faut dire d'ailleurs que Vanzetti, lui, était du Nord. Donc, il y avait à peu près 5000 membres à Patterson, dont au moins un millier d'anarchistes. Parmi ceux-ci, il y avait un tisserand qui s'appelait Gaetano Bresci, qui a pris la nouvelle, n'est-ce pas, qui s'était passé de ce qui s'était passé en Italie. Il y avait eu des grèves dans de la population qui était dans la famine, et un général avait tiré à coups de canon sur la population qui était tout à fait pacifique. Et pour féliciter le général, le roi le décora. Bresci, donc Gaetano Bresci, qui était parmi les Italiens de Patterson, était tellement outré de cela que sans rien dire ni à sa fiancée ni aux autres anarchistes, il part en Italie, il assassine le roi.
Umberto Ier.
Le roi Umberto Ier. Et donc le 29 juillet, il braqua son revolver sur le monarque, tira 4 coups de feu, il fut arrêté et emprisonné. Il devait mourir en prison moins d'un an après, et on ne sut jamais s'il s'était suicidé ou si on l'avait exécuté.
Donc là, c'est 1900.
Ça, c'est en 1900. Alors, les anarchistes de Patterson organisèrent des collectes pour aider sa veuve et ses deux enfants. La police s'efforça de les empêcher de lancer des soirées de bienfaisance, mais ils réussirent quand même à recueillir des milliers de dollars. Ce qui est bien la preuve que les anarchistes italo-américains ne se réduisaient pas à une poignée de rebelles indisciplinés, intolérants et amers, comme on les décrit trop souvent. Et ben, il y avait une véritable solidarité, malgré des conditions de vie misérables, parce que les sommes qu'ils donnaient, ça allait peut-être à 1 dollar ou moins, ou 2-3 dollars au maximum. Donc pour avoir réuni des milliers de dollars, c'est dire quand même qu'il y a eu un énorme... Une énorme solidarité. Donc, ils s'étaient lancés dans des courants anarchistes, qui était quand même très important, et en particulier un courant qui était très influencé par un Italien qui s'appelait Luigi Galeani. Alors, Luigi Galeani, qui avait connu Élisée Reclus jadis quand il était plus jeune, qui avait été déjà expulsé de beaucoup de pays, était un anarchiste qui préconisait l'insurrection et qui préconisait ce qu'on appelait la propagande par le fait. C'est-à-dire, pour lui, la propagande par le fait, c'était pas simplement des actes d'action directe, mais c'était vraiment de donner l'exemple de la révolte par la dynamite, par des moyens divers, de telle sorte que ça révolte, ça amène la population à se révolter. Alors, il faut dire une chose aussi, n'est-ce pas, c'est que nous sommes dans un climat totalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Il faut savoir quand même que les années 1900 à 1920 ont été des années extrêmement révolutionnaires, de 1880 à 1920. Il faut se rappeler quand même qu'en France aussi, il y avait des attentats de Ravachol, par exemple, qui étaient célébrés par les artistes, par les poètes et par les musiciens, les peintres. Il y avait tout un groupe de peintres très proches du mouvement anarchiste aussi, qui d'ailleurs envoyaient des illustrations aux journaux anarchistes. Donc, autrement dit, même des écrivains de la littérature, Zola, etc., qui racontaient tout ce qui était en train de se passer. Et beaucoup, beaucoup de monde, finalement, quand même, devenait de plus en plus critique par rapport à l'État, en France en particulier, ce qui s'est passé. Il y a eu l'affaire Dreyfus, et il faut se rendre compte quand même que l'affaire Dreyfus s'attaquait le summum même de l'État, la quintessence de l'État, c'est-à-dire l'armée française, n'est-ce pas ? C'était quand même... Et quand on voit que, bon, le nombre de monde, y compris dans les milieux de, bien nantis, qui prennent la défense de Dreyfus, et puis évidemment bon, les anarchistes aussi, un peu tardivement, mais quand même très intensément, on se rend compte qu'il y a un climat très proche de la révolution, que nous allons avoir d'ailleurs, et ce ne sera pas un hasard, une série de révolutions. Il y a d'abord la révolution au Mexique, avec des anarchistes aussi qui sont là-bas, et y compris des anarchistes italiens, anglais, américains, etc. Mais ça, c'est une autre histoire dont on ne peut pas parler aujourd'hui. Et il va y avoir ensuite toutes les séries de mouvements révolutionnaires. Il y a eu la Commune de Paris en France, n'est-ce pas, avant, en 70-71. Et puis il va y avoir les mouvements, les communes de Berlin, les communes d'un grand nombre de villes, et puis en Italie aussi, à Milan, ce qu'on va appeler les années rouges en 1920-1921. Donc nous sommes vraiment dans un climat qui est assez extraordinaire, exceptionnel.
Oui, justement, puisqu'on parle de toute cette agitation, je pense que c'est important de revenir un peu en arrière sur toute l'agitation qui s'est passée aux États-Unis. On a déjà parlé de plusieurs événements, mais on pourrait peut-être repartir de l'explosion de Haymarket, qui est quand même en 1886, qui est l'origine du 1er mai, encore aujourd'hui, et qui est du coup un attentat qui a attribué à des anarchistes et qui marque un peu le début de la période dont j'aimerais que tu parles, c'est-à-dire de toute cette période d'effervescence de l'anarchisme italo-états-unien et qui va se terminer d'une certaine façon avec l'affaire Sacco et Vanzetti et l'énorme répression de l'anarchisme états-unien après la Première Guerre mondiale. Bon, déjà une première fois dans les années 1900, mais est-ce que tu peux me parler de tout ça ?
Alors oui, il faut dire, n'est-ce pas, que l'événement de Haymarket est un événement très très important qui a été suivi dans le monde entier, avec retard bien sûr, puisqu'il n'y avait pas la radio, mais la presse ouvrière qui existait dans beaucoup de pays suivait cela de très près. Ce sont des anarchistes qui ont été arrêtés à la suite d'une manifestation où une bombe a été lancée, pensant par probablement un provocateur, où il y a eu un certain nombre de morts, y compris par la police, parce qu'ils se sont tirés dans la panique les uns sur les autres. Et on a arrêté des anarchistes qui avaient organisé la manifestation, y compris des anarchistes qui n'étaient même pas là, et ils ont été condamnés à mort. Donc on n'a jamais trouvé depuis qui a lancé la bombe, et ils ont été exécutés après une année de procès, d'emprisonnement, etc. Et ça a été un tel choc dans le mouvement ouvrier que tous les ans, la date du 1er mai a été retenue pour célébrer cette révolte anarchiste et ouvrière à une époque où l'anarchisme était encore assez lié aussi avec le courant socialiste. Le marxisme n'existait pas encore vraiment en réalité à l'époque aux États-Unis, il n'était pas très connu. Le Marx n'avait pas été traduit encore ni rien. Donc nous avons là un milieu, mais c'est essentiellement le milieu allemand, le milieu anarchiste allemand, qui va progressivement s'intégrer à la population, s'américaniser, et donc devenir plus ou moins conservateur. L'immigration italienne, c'est une immigration nouvelle quand même malgré tout, mais il y a les transmissions qui sont faites progressivement, parce que bon, on continue à célébrer. Il faut voir aussi que les mouvements ouvriers là. Enfin, les anarchistes ont chacun leur tradition, chaque pays a sa tradition. C'est-à-dire que, par exemple, les Italiens se réunissent toujours, se retrouvent toujours là dans des bars où on vient chercher pour les gens pour le travail, puisque ce sont des travailleurs saisonniers, et où on trouve aussi les prostituées. Les Allemands, eux, se retrouvent plutôt dans des restaurants où on va en famille, où on fait des concerts aussi, il y a des chorales allemandes, et où, on, dans les années 80, justement, les ouvriers anarchistes ont commencé à avoir des exercices de tir pour pouvoir se préparer à la lutte armée contre le capital. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'aux États-Unis aussi, il y a les polices privées qui sont armées et qui, dans les grèves, comme dans la grève qu'on va avoir plus tard à Ludlow et ailleurs, vont tirer sur la foule, vont brûler des tentes où se trouvent des femmes et des enfants sans aucun scrupule. Donc les ouvriers disent, il n'y a pas de raison que nous, on n'ait pas aussi nos propres milices qui vont défiler le 1er mai. Évidemment, elles vont être interdites par le gouvernement alors qu'il va autoriser les milices du patronat.
Comme la fameuse agence Pinkerton.
Voilà, l'agence Pinkerton en particulier, bien connue, hélas. Donc, nous avons là... et alors, les Français, eux, par contre, ils se retrouvent dans des hôtels où il y a des bons repas et où ils font, évidemment, un grand banquet. C'est la grande tradition française du repas, n'est-ce pas ? Donc, on a vraiment des coutumes très différentes selon les milieux ouvriers. Et c'est comme ça aussi que se transmettent toutes les cultures, etc. Donc, le mouvement italien est beaucoup plus marqué par les idées de Galliani, qui, lui, est hostile au syndicat, est hostile à l'organisation, non pas pour le groupe. C'est-à-dire qu'il pense qu'il faut beaucoup mieux discuter de quelque chose dans un pique-nique parce qu'il n'y a pas la rigidité de l'organisation. Il n'est pas contre la collectivité, il est contre les organisations justement instituées parce qu'il trouve que ça paralyse tout. Et Sacco et Vanzetti seront hostiles aussi, malgré tout, aux syndicats également, dans la même lignée que, et ils seront dans des groupes qui vont probablement avoir aussi beaucoup d'attentats également. Mais il faut dire que beaucoup d'attentats, on n'a jamais su qui les avait lancés. Donc, nous allons avoir ensuite aux États-Unis l'attentat qui va avoir lieu contre le président des États-Unis en 1901 par Czolkowski, qui est quelqu'un, un Polonais que personne ne connaît, qui va voir Emma Goldman et les anarchistes qui vont dire « là, mais ça c'est un espion de la police ». Il va même y avoir des articles dans la presse pour dire « méfiez-vous de lui », enfin dans la presse anarchiste. Mais quand il va être interrogé, il va dire qu'il est anarchiste. Et donc on va en profiter pour faire des lois anti-anarchistes aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il est interdit même d'avoir des idées anarchistes. C'est pas pour une démocratie, c'est magnifique.
Effectivement.
Et les lois vont évidemment être appliquées, en particulier pour empêcher les gens qui viennent aux États-Unis s'ils ont des idées anarchistes, n'est-ce pas ?
C'est l'Immigration Act de 1903.
Voilà. Voilà.
Les anarchistes italiens sont interdits d'entrer dans le pays.
Voilà. Bon. Ils entrent quand même, parce qu'il y a beaucoup de moyens d'entrer dans le pays. Moi, j'en ai connu des certains qui étaient là depuis 50 ans et qui étaient totalement inconnus des autorités et qui étaient des illégaux. Il faut voir que, en fait, l'important mouvement qui va se passer, enfin, une grande transition qui va se passer, c'est que bon, donc nous avons, au début du siècle, une énorme immigration, en particulier des milieux yiddish, juifs des pays de l'Est, qui fuient les pogroms qui sont là, qui vont organiser de très importants syndicats ouvriers, en particulier dans le textile, des syndicats de femmes, essentiellement. Donc il y a un milieu féminin très très actif aussi, très volontaire et très important. Et puis voilà que les États-Unis, la guerre éclate, la guerre de 14-18, et que les États-Unis vont décider la mobilisation, ce qui va amener Emma Goldman et d'autres à pousser, évidemment, à déserter, à éviter la guerre, etc. Alors il va se passer une chose qui s'est passée également d'ailleurs en 1939 en Angleterre, c'est que les anarchistes qui appellent à déserter, on ne va pas les poursuivre pendant la guerre, on va attendre la fin de la guerre pour le faire et pour les interdire. Et donc, à la fin de la guerre de 14-18, les Américains vont à ce moment-là avoir ce qu'on appelle les années rouges, et vont embarquer des centaines et des centaines de gens, y compris Emma Goldman et d'autres meneurs, et les envoyer vers l'Union soviétique. Mais il faut dire que la révolution russe a été l'occasion pour les États-Unis d'avoir un petit peu un coup de froid, parce que malgré tout, ils sont triomphants, n'est-ce pas, de la guerre de 14-18. Ils apparaissent évidemment comme le jeune frère, avec toute la jeunesse d'un peuple jeune par rapport à la vieille Europe. C'est eux qui ont contribué à la victoire finale, donc ils sont vraiment bien vus des États de toute l'Europe, dans toute l'Europe de l'Ouest. Et voilà tout d'un coup qu'il y a la révolution soviétique, qu'il y a Lénine qui envoie un message aux ouvriers américains pour leur dire « révoltez-vous ». Et bon, bien sûr, l'Union soviétique est quand même très loin des États-Unis, encore qu'il y a l'Alaska qui n'est pas si loin que ça. Et donc Wilson, pour contrer tout ça, va créer la Société des Nations Unies pour écarter l'Union soviétique. Et donc, tout ça rentre un peu, non pas seulement en vue d'une politique locale pour défendre le patronat, mais aussi dans une politique internationale, un aspect de géopolitique. Alors, ils vont ramasser, alors il va y avoir avec les Pinkerton, des polices privées, même des volontaires, ils vont faire des grandes rafles de milliers de personnes simultanément le même jour dans l'ensemble des États-Unis. Ils vont arrêter des millions de personnes, des milliers de personnes. Et puis ensuite, ils vont exposer le résultat, c'est-à-dire, je crois, 2 ou 3 revolvers, point final. C'est tout ce qu'ils ont pu trouver comme truc subversif. Mais ils vont présenter ça comme une grande victoire par rapport à ça. Bon, Emma Goldman, donc, et bon, un certain nombre d'autres dirigeants sont expulsés. Galliani aussi a été expulsé déjà un peu plus tôt. Et donc, le mouvement anarchiste se trouve maintenant devant ses propres forces, les gens qui sont là, sur place, et qui vont, et c'est là que vont se dérouler les événements qui vont déclencher l'affaire Sacco et Vanzetti, c'est-à-dire 2 événements en particulier. Un hold-up raté dans le Massachusetts d'un camion qui contenait de l'argent. Il y a un fourgon donc avec de l'argent qui est attaqué par une voiture, mais il y a une trame qui vient et le camion profite pour s'en aller et donc le hold-up est raté. Ça se passe à Bridgewater. Et ensuite, quelques mois après, dans un autre endroit du Massachusetts, il y a un deuxième attentat beaucoup plus grave, car c'est dans une usine. Il y a le caissier de l'usine qui part accompagné d'un garde et qui quitte les bâtiments de l'administration pour aller vers le personnel pour le payer. Il passe par un grand terrain vague où il y a 2 hommes qui sont là. Et quand ils arrivent à la hauteur des 2 hommes, on leur tire dessus, on les tue, on prend l'argent et on disparaît. Et c'est là-dessus que, évidemment, nous allons avoir l'affaire Sacco et Vanzetti.
Alors je vais simplement revenir sur un événement avant de passer à la deuxième partie, qui est le massacre de Ludlow. Et je vais lire ce que tu écris dans ton livre Sacco et Vanzetti. C'est assez bref et c'est dense. Un événement va mobiliser corps et âme les anarchistes italiens et réinsérer l'ensemble du mouvement dans les luttes de masse, la tuerie de Ludlow. Depuis une 30aine d'années, dans les mines de charbon du Colorado, se déroule une véritable guerre dont l'escalade entraîne les adversaires vers un point de non-retour. Les ouvriers réclament en vain des négociations à la Colorado Fuel and Iron Company, une société qui appartient au milliardaire Rockefeller. Après le rejet de leurs demandes et le meurtre d'un meneur par un détective au service des employeurs, ils tuent à leur tour, le 24 septembre 1913, un policier de la compagnie. Le lendemain, quelques 8000 mineurs, sur les 10 000 de l'entreprise, abandonnent les maisons que la compagnie leur loue et s'installent dans des tentes fournies par le syndicat. La grève, longue et très dure, est ponctuée de nombreuses escarmouches, de véritables batailles rangées. Les troupes fédérales interviennent. Le conflit atteint son paroxysme le 20 avril 1914. Une compagnie de militaires attaque le campement des grévistes désarmés, le trou noir de Ludlow. Au cours d'une horrible bataille qui ne dure pas moins de 15 heures, la milice patronale, armée de fusils et de mitraillettes, tue 5 hommes et un jeune garçon, met le feu aux tentes et pille tous les objets de valeur. 11 enfants et 2 mères meurent asphyxiés, des centaines d'autres personnes sont grièvement blessées. Le meneur grec est abattu avec 2 autres prisonniers. Le massacre de Ludlow va susciter une énorme révolte dans la population minière. Depuis la zone septentrionale du Nouveau-Mexique, des bandes armées de mineurs descendent pour venger le crime,
attaquant une mine après l'autre, chassant ou tuant les gardes et mettant le feu au bâtiment. Cette véritable guerre de classe, l'une des plus apocalyptiques de l'histoire ouvrière américaine, totalisera 74 morts. Elle ne prendra fin qu'avec l'arrivée de nouvelles troupes fédérales. On voit bien donc le bouillonnement qui existe non seulement dans le mouvement ouvrier états-unien, mais le bouillonnement que, de manière générale, aussi l'immigration italienne et les anarchistes italiens ont pu impulser, même si là, pour le coup, ils interviennent plutôt après le massacre en soutien. Vraiment, on voit qu'on est dans une période d'agitation ouvrière aux États-Unis que les États-Unis ont peut-être même plus connue depuis l'époque. À part, il y a eu quand même des grandes grèves dans les années 30 et 40. Mais en tout cas, on va dire, c'est un peu l'âge d'or de l'anarchisme états-unien et des grèves. Puisqu'après, le mouvement... donc tu me diras si je me trompe, hein, mais il me semble que le mouvement ouvrier états-unien va être un peu moins marqué par les idées anarchistes après ça.
Oui, et donc c'est un peu à partir de là que les anarchistes évidemment vont réagir beaucoup, qu'il y a même un attentat qui va être entrepris contre le bâtiment de la maison de Rockefeller à New York. Et il y a des photos qui montrent dans la presse, qui paraissent dans la presse, qui montrent Emma Goldman parlant à des foules de plusieurs milliers de personnes, ce qui montre que les gens comprennent parfaitement ces attentats, les approuvent complètement, parce que c'est vraiment une vengeance du mouvement ouvrier. Et alors on va voir le nombre d'attentats se multiplier de plus en plus, et on va l'attribuer évidemment aux anarchistes italiens, puisque Galeani préconise la propagande par le fait. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va y avoir donc encore des expulsions, qu'il y a donc ces années rouges, et qu'après les descentes de police dans les locaux syndicaux et autres, l'expulsion de la plupart des mineurs, eh bien, ils vont trouver, après l'explosion, la détracte, qui vont les amener jusqu'à l'imprimeur supposé détracte, qui s'appelle Salcedo, qui va être arrêté avec un camarade, qui va être mis illégalement dans un local du FBI, et on va trouver son corps sur... du 15e étage où il est tombé. Alors évidemment, la police va dire qu'il s'est suicidé, mais ça va créer quand même un grand questionnement, même dans la classe dirigeante américaine, sur l'illégalité. Les intellectuels commencent à se poser des questions quand même sur l'illégalité de la détention, etc. Les moyens qui ont été mis en œuvre, les juristes commencent aussi à se poser aussi des questions sur tout cela. Et donc, les anarchistes, évidemment, se disent qu'il faut faire très attention, nous risquons d'être expulsés. Donc, ils font une réunion où se rencontrent Sacco et Vanzetti. Il faut dire que Sacco et Vanzetti ne se connaissaient pas avant tellement. Et que, d'autre part, il faut dire aussi, peut-être rappeler quand même, que pendant la guerre, pour éviter d'être pris pendant la guerre, par le service militaire, ils sont partis au Mexique. Ils sont partis au Mexique parce qu'ils pensaient... C'était pas seulement pour éviter la guerre, mais aussi parce qu'ils voyaient l'Italie en ébullition. Ils pensaient que c'était mûr pour une révolution. Et donc, ils voulaient pouvoir partir en Italie ensuite. Ou éventuellement, et ensuite soutenir la révolution de là-bas. Mais les conditions mexicaines étaient très, très dures pour eux. Et donc, ils sont quand même revenus clandestinement aux États-Unis. Sacco avait quand même un emploi toujours avec dans la chaussure. Il s'entendait très bien avec son chef d'entreprise qui lui confiait les clés de l'usine parce que la nuit, il devait y aller pour régler un certain nombre d'appareils. Le chef lui avait donné d'ailleurs aussi un terrain où il cultivait des plantes et des plantes ménagères, etc. Enfin, des potagères, pardon. Et de temps en temps, ça lui apportait des légumes pour qu'il puisse les distribuer aux pauvres. Donc les relations qu'il avait étaient quand même tout à fait cordiales, malgré les idées que Sacco pouvait entretenir, au point de vue anarchiste, dans les rapports interpersonnels. Vanzetti, lui, qui avait mené des grèves et qui était particulièrement maintenant marqué au rouge dans toutes les usines, ne pouvait plus trouver de travail, et donc il vendait désormais, était vendeur de poissons. Et marchand de poissons, voilà, ils ne se connaissaient pas, Ils se sont connus un peu pendant le Mexique. Et ensuite, chacun était revenu donc à son endroit respectif. Ils n'habitaient même pas dans la même ville. Et donc, à cette réunion où ils se retrouvent, on décide de ramasser toutes les pièces compromettantes que tous les copains et les camarades peuvent avoir, revolvers et autres tracts, etc. Et Sacco et Vanzetti vont partir pour faire cela. Ils vont être filés par la police et ils vont être arrêtés. On va trouver sur Sacco un revolver. Est-ce le sien ou pas? Il n'a jamais dit à qui il était. Et des tracts aussi. Bon, ils pensent qu'ils ont été arrêtés, qu'ils vont être simplement expulsés. Mais en réalité, l'affaire est beaucoup plus grave. Ils vont être jugés et menacés de peut-être beaucoup plus d'autres choses.
Oui, donc ça, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Voilà, donc on va faire une pause musicale avec, évidemment, Here's to You de John Bess.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à l'affaire Sacco-Vanzetti et à l'anarchisme italo-états-unien. Et donc c'était Here's to You de John Bez que nous venons d'écouter. Et donc on passe maintenant à la deuxième partie de cette émission. Donc la première était consacrée à l'histoire de l'immigration italienne aux États-Unis. Et à l'histoire aussi de l'anarchisme italo-états-unien des années 1880 à la fin des années 1910 au début des années 1920. Donc on a vu cette riche histoire faite de grèves, de massacres et de répression. Et maintenant on va passer donc à l'affaire Sacco-Vanzetti dont nous célébrons le triste 90e anniversaire de la conclusion de cette affaire qui s'est conclue par l'exécution le 23 août à 0h précisément de Sacco et de Vanzetti sur la chaise électrique. Pour parler de cette affaire, nous sommes avec Ronald Craig qui a écrit notamment sur cette affaire Sacco et Vanzetti aux éditions La Découverte en 1984. Il est professeur de civilisation américaine à l'université de Montpellier et auteur de nombreux ouvrages sur l'anarchisme aux États-Unis. Alors maintenant, on a déjà dans la première partie de l'émission déjà un peu parlé de cette affaire, puisqu'on a parlé des deux événements qui vont mener à toute cette affaire Sacco et Vanzetti. Et donc, on en était resté précisément au moment où ils sont arrêtés, et ils vont rapidement se retrouver dans une machination judiciaire qui les dépasse complètement, et qui va plus ou moins les broyer. Donc est-ce que tu peux raconter assez rapidement cette machination judiciaire qui va conduire 7 ans plus tard, après 7 ans d'emprisonnement, de procès, de rebondissement, à leur exécution?
Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que lorsque Sacco et Vanzetti ont été arrêtés, ils pensaient que c'était pour leur expulsion. Or, ce n'était pas du tout le cas. Le juge avait bien l'intention de pouvoir condamner pour leurs idées anarchistes. Et donc il a fait un certain nombre d'opérations qui n'étaient pas illégales, mais qui n'étaient pas coutumières dans le Massachusetts. Parce que chaque État est autonome, n'est-ce pas, au point de vue judiciaire. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que toute l'affaire se limite malgré tout au Massachusetts et pas aux États-Unis dans le cadre du procès. Donc, pour pouvoir les incriminer, alors qu'ils n'avaient absolument aucune preuve du tout pour les deux procès, qui se trouvaient en deux lieux différents, avec deux individus qui se connaissaient à peine, qui s'étaient rencontrés comme ça au Mexique, mais qui en fait, donc Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti ne se connaissaient guère, donc ils ont été arrêtés ensemble puisqu'ils avaient été pris avec quelques petites pièces à conviction. Pour pouvoir les incriminer et n'ayant pas de preuves, il a fait une chose qui n'était pas non plus illégale, mais qui n'était pas coutumière. Il a d'abord commencé à faire juger Vanzetti tout seul pour le premier procès, pour la première affaire, celle de Bridgewater, celle du fourgon qui contenait de l'argent et qui avait été le hold-up manqué. Alors Vanzetti est donc choisi pour cela, et l'avocat qu'on prend est un avocat italien, dont on saura plus tard quand même qu'il avait des accointances avec le procureur et avec le juge, et qu'il a évidemment très mal défendu. Les gens qu'il avait soi-disant repérés, alors que beaucoup d'entre eux ont ensuite dit que non, que c'était qu'ils se sont trompés, et ainsi de suite, et puis lui n'était pas... Il y a eu quand même un certain nombre de témoins pour lui dire qu'il n'était pas là sur le moment. Je veux dire, il avait un alibi comme vendeur de... C'était un peu la veille de Noël. Donc c'est un jour où évidemment tous les gens vont acheter du poisson pour avoir des repas de fête. Donc il y avait quand même un certain nombre de témoins. Mais du fait qu'ils étaient italiens, évidemment, on les considérait comme des complices non fiables, quoi.
Puis on a manipulé aussi des témoignages, puisqu'il y a pas mal de témoignages qui au début disent, de témoins directs qui disent c'est pas Vanzetti, et qui subitement au procès ont changé d'avis. Quoi.
Voilà. Alors après c'est trouvé, alors immédiatement, de toute façon, il y a un anarchiste qui s'est mobilisé, Aldino Felicani, qui était un homme encore assez jeune, qui venait d'arriver aux États-Unis depuis pas très longtemps, et qui tenait un journal, qui travaillait dans un journal commercial italien, un quotidien italien, où il avait acquis quand même une très haute réputation. Et il a fait évidemment avec des gens qui étaient du même courant anarchiste que Sacco e Vanzetti, c'est-à-dire des gens qu'on appelle des gallianistes. C'est pas un terme tout à fait correct dans la mesure où il n'y a pas à... C'était pas des groupes, c'était des individus isolés, ce sont des individualistes anarchistes qui sont contre l'organisation, et qui font d'ailleurs leurs actions, souvent, sans que personne ne le sache, ni leur famille, ni leurs voisins, ni leurs camarades anarchistes. Donc, il va prendre des Italiens qui sont... il y a quelques ouvriers, il y a un homme d'affaires, il y a aussi un professeur. Mais ce sont des gens qui ont des idées assez rigides, n'est-ce pas? Ils croient à la révolution, ils croient donc à l'insurrection, ils croient à l'action directe. Et pour eux, il ne fait aucun doute que Sacco et Vanzetti sont arrêtés parce pour leurs idées et non pas du tout pour le crime. D'ailleurs, le juge qui a jugé Vanzetti va demander, ce qui est totalement inhabituel, va demander à juger les deux maintenant dans le même procès, alors que normalement, ça ne se fait pas. Ça ne se faisait pas. Et il va chercher, évidemment, à trouver des preuves, parce qu'il n'en a aucune. Il va essayer de recruter un indic et lui proposer d'aller louer un d'aller vivre chez Rosina Sacco, comme elle n'a plus son mari, qu'elle a un enfant et qu'elle est sur le point d'accoucher un deuxième, elle a besoin d'argent certainement, donc elle va pouvoir prendre cet indicateur de ce qui bannière, qui pourra entrer dans l'intimité de Sacco et savoir un peu ce qui se passe. Malheureusement pour eux, l'avocat de la défense, un nouvel avocat qui a été choisi, s'aperçoit de l'affaire évidemment, et donc on est obligé de l'affaire ne se fait pas. Mais on va placer un autre indicateur dans la prison dans là où se trouve Sacco, parce qu'ils sont dans des prisons différentes, Sacco et Vanzetti. On va mettre un autre indicateur dans la prison de Sacco pour essayer de le faire parler. Et là aussi, ça ne va pas marcher. D'autant plus que, bon, Sacco dit qu'il est innocent, comme le dit aussi Vanzetti. Donc, l'avocat, donc le comité de défense, va être chercher à mener une campagne. Bon, le problème est que ce sont des anarchistes qui veulent défendre des idées anarchistes, mais ils ne connaissent pas l'anglais, enfin ils le connaissent, mais ils le parlent mal, ce sont des immigrés italiens, sauf un qui est espagnol, et même le courant anarchiste est aussi divisé en courants qui sont, sinon hostiles, du moins méfiants les uns par rapport aux autres. Donc, il va quand même se constituer et trouver donc un avocat qui sera... Parce que ce qui se passe, alors à ce moment-là, va intervenir un personnage très important, Carlo Tresca. Carlo Tresca est un grand orateur italien qui est capable de parler à des foules énormes. Il faut rendre compte quand même qu'à l'époque, ces gens qui parlaient en plein air... devant quelquefois des milliers de personnes, devait avoir une voix qui portait à tout le monde. Et en plus, où il y avait par exemple dans la foule des ouvriers de langue étrangère qui ne comprenaient pas un mot de ce qu'on disait et qui attendaient patiemment que l'orateur de leur langue s'exprime. Donc il y avait aussi toute une mimique à faire pour faire comprendre un peu de quoi il s'agissait. Quelques mots d'anglais peut-être aussi se glissaient dans le discours pour pouvoir faire passer un certain nombre de choses. Enfin, c'était vraiment une action oratoire d'autant plus difficile qu'elle se faisait sous les yeux de la police, qui était toujours là, qui avait vraisemblablement interdit la manifestation presque, et qui, au moindre discours qui apparaissait comme subversif, procédait immédiatement à l'arrestation des orateurs. Voilà les conditions dans lesquelles on défendait Sacco et Vanzetti. Alors Tresca, qui était ami avec Vanzetti, était absolument outré de la défense qu'il y avait eu auprès de lui avocat, et il a dit non, non, il faut faire venir quelqu'un d'autre de plus compétent. On va faire venir un avocat des anarcho-syndicalistes américains, enfin ils n'étaient pas anarcho-syndicalistes encore, ils le sont devenus après, c'était les IWW, n'est-ce pas, on les appelait les Wobbly,
Industrial Workers of the World.
Industrial Workers of the World. Et c'est un avocat qui avait déjà défendu des causes difficiles et qui va venir et qui va essayer de faire une action en profondeur. C'est-à-dire non pas seulement toucher les milieux anarchistes, mais essayer de toucher aussi les milieux américains. Et il va donc essayer d'avoir un discours qui ne va pas mettre en accent les idées anarchistes, mais présenter plutôt Sacco comme une victime ouvrière de la lutte des classes. Ce que sa compagne Elizabeth Gurley Flynn, qui est aussi une grande militante ouvrière, va trouver ridicule, parce qu'il ne se situe pas dans le cadre syndical, ils ne sont pas syndiqués, il ne se situe pas dans le cadre des classes de manière aussi nette. Et puis, de toute façon, l'événement qu'il y a eu, le fall hold-up, n'a rien à voir avec la lutte des classes. Donc, elle dit, non, ça ne va pas. Essaye de montrer simplement que c'est un ouvrier qui est attaqué par la classe dirigeante et écrasé à cause de ses... voilà. Mais Elizabeth Gurley Flynn est une femme qui va jouer un rôle crucial. Elle va mener une campagne dans les milieux juifs, dans les milieux anglophones également, donc les milieux juifs à New York, les milieux juifs vont être parmi les plus généreux pour financer la campagne, les milieux anglophones beaucoup plus réticents, parce que plus conservateurs et n'ont pas envie de se mêler de ces histoires-là, surtout sur la côte ouest, donc ils vont aider simplement du bout des lèvres, mais pas tellement concrètement, c'est plutôt la côte est et le centre qui vont se mobiliser. Et il va y avoir, elle va être extrêmement active au point de faire quelquefois 5 ou 6 réunions, 5 ou 6 conférences dans la même journée, ce qui doit être épuisant quand on va faire 5 ou 6 conférences en plein air comme ça. Et c'est elle qui va amener le plus d'argent. Et puis il y a une autre dame de la haute société de Boston, et cette dame va visiter Vanzetti pour lui et il va prendre avec elle des cours d'anglais pour pouvoir parler l'anglais. Et elle est absolument impressionnée par Vanzetti, par son innocence. Et elle va publier un article dans un journal important de la gauche américaine qui va quand même déjà jeter les choses. Et d'autre part, elle va alerter toutes les bonnes dames des œuvres sur l'affaire Sacco et Vanzetti, et ça va amener petit à petit toute une bourgeoisie à prendre fait et cause aussi pour Sacco et Vanzetti.
Donc ça va être coalition complètement hétéroclite, quoi, absolument, avec des anarchistes italiens. Et...
voilà, et alors à ce moment-là, il va y avoir évidemment des problèmes, des drames avec les anarchistes italiens, parce qu'ils ne sont plus d'accord du tout avec le type de discours que les autres prennent pour le défendre, etc. Mais il y a Elizabeth Gurley Flynn, qui est extrêmement diplomate, parce que même Trescan se méfie de lui. Elle, elle est très diplomate. Et c'est une femme qui a aussi milité avec les Industrial Workers of the World, était une organisatrice, etc. Et depuis, bon, elle a quitté ça pour d'autres raisons. Et elle a créé un comité de défense du mouvement ouvrier, dans lequel elle va réunir des gens qui ne peuvent pas se supporter les uns les autres, mais qui sont d'accord quand même pour défendre devant la justice des gens qui sont condamnés uniquement pour leurs idées politiques et non pas pour des crimes réels. Donc nous allons avoir là des socialistes, des communistes et d'autres. Ça va réunir quand même un nombre important d'associations de tous les États-Unis. Et là-dessus, il va y avoir effectivement un mouvement important aussi qui va se créer de cette manière. Il y a aussi Moore qui continue évidemment son action, et le procès qui a lieu se déroule d'ailleurs très vite et dans une atmosphère patriotique, c'est-à-dire pendant les grands anniversaires des victoires américaines à la guerre de 14-18 et dans d'autres guerres, dans des arrestations encore de prisonniers, etc. On va payer un certain nombre de gens pour servir comme témoins à l'accusation. Enfin, c'est un procès complètement truqué, manipulé, etc. Et en peu de temps, ils vont être tout simplement condamnés à mort.
D'ailleurs, notamment sur la base, tu le racontes dans l'ouvrage Sacco et Vanzetti, sur la base d'un traficage où on va essayer de faire correspondre la balle qui aurait été retrouvée sur quelqu'un qui est mort lors d'un des deux crimes avec le pistolet de Sacco et Vanzetti, pour essayer de faire correspondre, mais tout ça, on voit bien que c'est de la bidouille, quoi.
Oui, parce que bon, quand on demande au chef de la police, est-ce que vous pouvez certifier que ça a été tiré par ce revolver, elle a dit, ah non, ne me posez pas cette question, parce que je vais répondre, je ne peux pas certifier. Ce que je peux dire, c'est que ça peut être par un revolver de ce type.
Oui.
Et donc, on lui a posé la question, est-ce que la balle est sortie de ce revolver de ce type? Et ça, la défense ne le savait pas.
Oui, c'est donc, on voit la manipulation rhétorique du jury, quoi.
Voilà un exemple des choses. D'ailleurs, il faut dire que le revolver, lorsqu'il a été saisi, n'a pas du tout été mis sous scellé. Il est resté chez le chef de la police pendant un temps certain, jusqu'au procès au moins. Et je ne sais même pas s'il n'a pas été aussi après. Il a été manipulé des tas de fois. Donc on ne peut pas jurer non plus que c'était vraiment le revolver que Sacco avait.
Bien sûr.
Alors Moore, l'avocat, fait plusieurs appels. Sacco en a marre, il a envie d'en finir. Il va récuser Moore parce qu'il dit, écoutez, de toute façon, on est condamné à mort, qu'on les exécute et qu'on en finisse. Et donc finalement, bon, Moore va être obligé de démissionner. Et c'est Elizabeth Gurley Flynn avec Tresca qui vont réussir à avoir un nouvel avocat qui est un homme de droite qui au début est un grand conservateur qui va étudier le procès, qui va se rendre compte effectivement de toutes les injustices et qui va donc accepter de prendre la défense. Et ils vont également avoir faire venir un professeur de droit de Harvard qui est d'une famille très aisée aussi, qui s'appelle Frankfurter, et ils vont réussir, par sa femme, à le convaincre d'écrire un texte qui va faire un un énorme bruit dans le monde de la droite, dans le monde politique et dans les milieux conservateurs pour démonter complètement le procès. Alors, ce qui se passe, la question qu'on peut se demander, c'est comment est-ce que le procès, tout d'un coup, va prendre une allure internationale. Eh bien, le comité qui était là, eh bien, les Italiens qui sont là d'abord, vont évidemment écrire à tous les milieux italiens qui se trouvent aux États-Unis, mais aussi en Italie. Il y a également aux Italiens anarchistes qui ont été chassés d'Italie ou qui sont enfuis d'Italie et qui se trouvent en Suisse. Et donc la presse suisse aussi va en parler, la presse italienne également. Et il y a énormément d'émigration italienne également en Argentine. En Argentine, le mouvement social est dominé par les anarchistes. Et donc, ils vont aussi mener campagne là-dessus, dans toute l'Amérique latine également. Et d'autre part, il y a maintenant un certain nombre d'écrivains de langue anglaise qui ont été aussi sollicités par Elizabeth Gurley Flynn ou par Moore, qui vont interviewer Sacco e Vanzetti et qui vont écrire des livres. Et parmi eux, il y a Upton Sinclair, qui est un journaliste qui a attaqué les excès du capitalisme et qui est un socialiste, mais qui également écrit pour la presse communiste, mais qui écrit donc en même temps pour les anarchistes, et qui va sortir après d'ailleurs un livre qui s'appelle Boston, qui raconte exactement l'histoire, parce qu'il a travaillé sur tous les détails, il a interviewé les deux individus, etc. Et il y a le grand écrivain Dos Passos, et puis d'autres également, qui vont également manifester, de telle sorte que il y a des manifestations dans le monde entier, jusque dans les îles Sandwich. Le pape va intervenir clandestinement pour demander qu'on essaye de faire de même Mussolini. Staline va lui essayer d'utiliser ça pour le recrutement des communistes et va essayer de présenter ensuite l'affaire comme une affaire donc des ouvriers, on ne va pas dire qu'ils sont anarchistes, n'est-ce pas, mais des martyrs de la lutte des classes. Donc il va y avoir un phénomène géopolitique d'intervention du communiste, sur lequel évidemment je vais travailler un peu plus en détail dans le livre pour montrer un petit peu les tenants et les aboutissants. Et il y a donc, ça va jusque dans les îles Sandwich et dans des endroits absolument inconnus où tout le monde va manifester contre les États-Unis. Et le soir, alors il y a une demande de pardon au gouverneur du Massachusetts qui fait venir un comité présidé par le président de Harvard. Et finalement, il refuse d'accorder le pardon parce qu'il se destine à être candidat pour la présidence et veut montrer que c'est un homme ferme pour avoir toutes les voix qu'il espère avoir. Et donc, finalement, le procès, l'exécution a été déjà retardée plusieurs fois. Et donc, la nuit où ils doivent être exécutés, il y a des foules immenses dans le monde entier qui se réunissent. Et à New York, il y a des milliers de gens, n'est-ce pas, qui attendent jusqu'à minuit en espérant que quelque chose, que l'impossible, va se faire. Et ils sont en particulier là, donc sur la fameuse place où tout le monde se retrouve, Union Square, c'est la grande place ouvrière de l'époque. Et ils regardent les annonces qu'il y a, et quand ils apprennent qu'ils ont été exécutés, ce sont des hurlements, des gens qui s'arrachent littéralement les cheveux dans le désespoir, qui se déchirent les vêtements. J'ai des témoignages de gens qui ont vécu cela et qui ont connu cela et qui ont été témoins de cela. Des événements énormes aussi dans le reste du monde. Des attentats qui vont continuer quand même. Et on ne saura jamais, évidemment, de qui. Il faut d'ailleurs dire qu'énormément de ces attentats ont été attribués aux anarchistes, mais qu'on n'en a jamais trouvé les auteurs. Donc c'est très facile d'accuser les gens. Et alors, on peut conclure en se demandant comment se fait-il que quelques pauvres Italiens démunis d'argent, ne parlant pas l'anglais, aient réussi à organiser une telle campagne internationale. Je crois que ça nous ouvre des questions importantes pour les actions mondiales que nous faisons aujourd'hui, et qu'il faut beaucoup étudier ce cas pour savoir quelles sont les erreurs à éviter, quels sont les problèmes qu'on rencontre. Car il faut reconnaître que les anarchistes ont échoué sur deux points essentiels. sur le pont Pierrepoint et n'ont pas réussi à sauver la vie de Sacco et Vanzetti, et sur le deuxième point, ils voulaient en même temps se servir de l'affaire pour faire connaître les idées anarchistes, ça n'a pas été le cas. On a parlé de lutte des classes, on a parlé de lutte ouvrières, on n'a pas parlé des idées anarchistes. L'anarchisme, les idées anarchistes sont des idées qu'on essaye d'effacer de la pensée publique, qu'il est interdit de penser, qu'il s'agit non pas simplement d'écraser les gens, mais aussi les idées et les pensées, parce qu'elles remettent en cause les piliers même de la société. Et ça, c'est évidemment un problème. Alors, depuis cette histoire, ce procès qui évidemment n'a pas été brillant, la droite américaine a cherché à vouloir trouver des solutions. Elle a commencé par essayer de publier un certain nombre de livres pour dire que le procès était juste et parfaitement légal. Ça n'a convaincu que ceux qui voulaient être convaincus. Puis il y a eu une deuxième série avec des tests qui ont été faits avec le revolver de Sacco. Et ces tests, soi-disant, prouveraient la culpabilité de Sacco.
Et l'innocence de Vanzetti.
Et l'innocence de Vanzetti, sur lequel on passe, évidemment, on ne dit rien. On dit, mais tant pis pour lui. Et d'autre part, on ne peut pas démontrer que le revolver était vraiment celui de Sacco.
Parce que justement, il ramassait des revolvers à des camarades à eux.
Voilà, exactement. Donc ce n'est pas impensable et qu'il n'ait pas voulu dire à qui c'était, bien entendu. Donc, et maintenant, comme tout ça aussi n'a pas convaincu encore beaucoup de monde, on a fait appel à, on fait maintenant un troisième procès, c'est-à-dire de dire que la grande campagne pour Sacco et Vanzetti, c'était la main de Moscou, et que ça a été mené totalement par Staline. Et là aussi, je crois que c'est une illusion, et c'est une manipulation en fait, une simplification, et c'est aussi quelque chose que je ne vais pas entrer en détail ici comme ça, mais enfin, quand on regarda dans l'ouvrage, comment les choses sont beaucoup plus complexes que cela, y compris en France, où le Parti communiste français, jusqu'en 1923-24, était totalement indépendant de Moscou, et où énormément d'anarchistes avaient rejoint ce groupe-là, et vont le quitter ensuite, lorsque il va se rallier de manière inconditionnelle au destin que lui veut imprimer Staline. Mais le Parti communiste n'est pas important partout en France. Il peut l'être à Paris, il ne l'est pas à Lyon, par exemple, et dans d'autres villes. Donc les choses sont beaucoup, beaucoup plus complexes que cela. Et une des plus grandes manifestations qu'il y a eu en France, pour l'affaire Sacco et Vanzetti, c'est même une des plus grandes manifestations de l'histoire française, puisqu'elle a eu lieu un peu avant leur exécution, et il y avait à la fois la Ligue des droits de l'homme, les socialistes, les communistes, les anarchistes, les catholiques de gauche, et beaucoup de gens simplement émus, ou des défenseurs qui étaient contre la peine de mort, des défenseurs des droits de l'homme, et des gens tout simplement indignés de ce qu'on condamne à mort des innocents. Donc, en réalité, c'est vraiment un mouvement populaire, au sens large du terme, puisqu'il comprenait des gens dans les différentes classes sociales. Il y a des gens auxquels on n'attribue pas d'opinion politique et qui pourtant ont protesté. Ce fut le cas, par exemple, de Lévi-Strauss et de quelques autres. Donc, nous avons là un grand exemple d'union internationale qui s'est faite et qui était quand même cruciale. Alors, pour terminer, il faut savoir quand même qu'à l'époque, Sacco et Vanzetti avaient déclaré qu'ils n'étaient pas eux, et qu'il y avait d'autres qui avaient dit que c'était eux, enfin d'autres personnes qui ont été arrêtées, qui avaient dit Baderos, qui avaient dit que c'était lui qui avait fait l'affaire avec d'autres, mais n'avait pas voulu donner le nom de ses comparses. On n'a pas voulu l'écouter, on n'a pas voulu en tenir compte dans le procès. Mais il y a quelques jours, il y a un grand-père qui vient de révéler, alors c'est évidemment à vérifier, qu'en fait, toute cette affaire, enfin toute la campagne, enfin tout l'attentat qui avait eu lieu dans lequel les deux hommes avaient été exécutés, avait été fait par des communistes russes.
Oh là là, alors là.
Voilà, merci.
Bon, ben, on va finir là-dessus, sur ce petit brin de suspense. On saura plus. On
alors, il faudra
plus.
Vérifier, évidemment, n'est-ce pas? Mais on a voilà un témoignage intéressant.
Voilà, donc mystérieuse affaire Sacco et Vanzetti.
Avec des rebondissements qui sont tels, et qui, d'ailleurs, aujourd'hui encore, tourmentent tellement la conscience américaine, qu'il ne se passe pas une année sans qu'il y ait un opéra, une pièce de théâtre, un livre, un ouvrage, une chanson, comme celle que vous avez entendue tout à l'heure sur Sacco et Vanzetti. Et je dois dire que quand on m'a demandé d'écrire ce livre, je suis allé voir mon beau-père qui habitait à l'époque dans l'Aveyron, dans un village complètement perdu, et je lui ai demandé « Est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire Sacco et Vanzetti ?» Il m'a dit « Oui, j'en ai entendu parler, parce qu'il y avait un chanteur ambulant qui est venu nous chanter la chanson de Sacco et Vanzetti. » Du coup, je suis monté chez mon voisin, qui lui avait eu son enfance en Tunisie, et je lui ai posé la même question. Et il m'a dit « Oui, j'étais au jardin d'enfants, ou à l'école primaire, je ne sais plus, et on m'a dit « Tu ne dois pas chanter cette chanson, sinon tu iras en prison. » Et il m'a chanté le premier vers de cette chanson, grâce auquel j'ai pu récupérer la chanson totale, et qui commence par « Tout est fini, Sacco et Vanzetti », quelque chose comme ça. « Tout est fini, plus rien à dire. » C'est sur un air de tango. Ce qui montre que même à l'époque où il n'y avait pas l'Internet, il y avait les chanteurs ambulants qui communiquaient les informations.
Ouais, c'est bien intéressant, effectivement. C'est ce qui est intéressant aussi dans cette affaire Sacco et Vanzetti, c'est cette immense campagne mondiale en leur faveur, hétéroclite, bigarrée, avec plein de gens qui se détestent sinon. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui... Alors, il y a d'autres exemples dans l'histoire. Il y a aussi l'indignation mondiale autour de l'exécution de Francisco Ferrer après 1909-1910.
C'était avant, oui.
C'était avant. Mais c'est vrai que c'est une campagne assez formidable. Et ben, en tout cas, merci donc de nous avoir parlé de l'affaire Sacco et Vanzetti et de l'anarchisme italo-états-unien. Donc, on rappelle qu'on trouvera plus d'informations sur cette affaire dans ton ouvrage Sacco et Vanzetti, paru aux éditions La Découverte en 1984. Et y aura une version, y a un nouveau livre qui va sortir aux ateliers de création libertaire dans quelques mois sur la campagne mondiale en faveur de Sacco et Vanzetti, qui raconte un peu plus longuement ce dont on a parlé dans la deuxième partie. Voilà, merci Ronald.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Connaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.